Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ingénieur Avenir. Aujourd'hui, on reçoit Vincent Devulder, un jeune ingénieur en télécommunication qui travaille à l'autre bout du monde dans le cadre d'un VIE, un volontariat international en entreprise. Alors bouclez vos ceintures et c'est parti!
Vers l'infini et au-delà!
Bonjour Vincent et bienvenue dans le podcast Ingénieur Avenir, ça va?
Super, et toi?
Très bien, merci, et puis surtout très heureux de te recevoir dans le podcast. Alors Vincent, tu as 25 ans et tu as été diplômé du département télécommunication à l'INSA de Lyon en 2021. Alors en fait, pour être honnête, on était camarades de promo et il n'y a pas longtemps, en prenant des nouvelles, j'ai découvert que tu étais en VIE. Et moi les VIE, je trouve ça plutôt cool, alors je voulais en faire un épisode avec toi. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard parce que pour commencer, Vincent, tu es ingénieur consultant. Alors ingénieur consultant, ça veut dire quoi? C'est quoi ton métier actuellement?
Alors ingénieur consultant, c'est assez simple. On peut prendre les deux mots séparément. Donc comme tu l'as dit, je suis ingénieur, je suis diplômé en 2021. Et consultant parce que je fais partie donc d'une entreprise, d'une boîte de conseil. Voilà, tout simplement les deux mots ou les deux fonctions mis bout à bout. Et le but, c'est de faire du conseil dans le domaine de l'ingénierie en réseau.
D'accord. Et donc, plus précisément, toi, tu fais du réseau, tu interviens sur quel type d'entreprise de mission?
C'est assez variable, c'est assez large. C'est aussi quelque chose qui m'intéressait dans ce domaine-là. Alors après, pour mon entreprise, donc CNS Communication, on travaille beaucoup pour des grands comptes, donc des entreprises avec des réseaux assez larges, avec des sites un peu partout dans le monde. Donc ça fait quand même du coup une certaine force de frappe et des challenges assez intéressants à voir sur des réseaux de cette taille, mais aussi on travaille et on apporte des conseils à des entreprises plus petites, des TPE, des entreprises de classe moyenne aussi. C'est vraiment en fait en fonction de leurs besoins et de tout simplement si on est apte à répondre à leurs besoins forcément par rapport à d'autres entreprises. Et le but, c'est de les conseiller au mieux, bien sûr. Dans nos capacités et selon leurs contraintes.
Toi, du coup, tu te retrouves vraiment chez le client, tu te déplaces chez le client dans les bureaux pour aller discuter avec les gens, voir c'est quoi qui fonctionne pas ou...
Alors ça dépend des projets, ça dépend des missions sur lesquelles je suis placé. C'est vrai que dans l'idée, les projets sur lesquels on travaille, on est vraiment plus dans une démarche de conseil donc d'ingénierie, donc plutôt d'un point de vue design, conception. Donc on est plutôt là pour voir des diagrammes, des schémas techniques et apporter du conseil là-dessus. Et on va pas forcément aller dans les data centers chez le client ou dans les baies, etc. pour faire les branchements. Même si sur certaines missions ça arrive en effet. Après, ça dépend évidemment de la mission. Si c'est l'installation d'un nouvel équipement, forcément ça peut être plus intéressant. Ou si tout est faisable à distance avec des accès distants et que c'est maîtrisé et qu'il n'y a pas de raison, ça arrive aussi. Oui, je dirais que ça dépend. Mais après, pour mon expérience, j'ai pas eu beaucoup de missions. Et puis, je pense qu'aussi le Covid n'a pas forcément peut-être aidé à ça, avec le fait que beaucoup de gens travaillent maintenant, d'autant plus maintenant qu'avant le Covid, à distance. Donc, il y a beaucoup plus de process en place pour permettre ça. Après, dans mon cas, comme je disais, moi, j'ai une ou deux missions en ce sens-là, donc c'est vrai que c'est très intéressant parce que bon, c'est vrai qu'en sortant d'école, on n'a peut-être pas forcément beaucoup d'expérience. C'est quelque chose qu'on a pour lequel on est un peu curieux. Aller dans un data center, c'est toujours sympa, mais un peu bruyant certes, mais c'est sympa quand même.
Ouais, c'est clair. Bah, mettre les mains dans le cambouis, c'est vrai que c'est assez attirant, je pense, pour un certain
Exactement.
Nombre de personnes en tout cas. Je te propose de passer sur le VIE. Donc, Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu habites aujourd'hui? Pourquoi tu y es?
Alors, j'habite à Kuala Lumpur, donc la capitale de la Malaisie. Et pourquoi j'y suis? J'y suis, donc, comme tu l'as déjà dit, dans le cadre d'un VIE. Que j'effectue à la suite de la fin de mes études et de mon premier emploi dans la même entreprise. Donc j'imagine que faut quand même détailler un peu ce que c'est qu'un VIE.
Qu'est-ce que c'est un VIE? Oui.
Tout à fait. Alors un VIE, c'est un acronyme pour un volontariat international entreprise. Concrètement, alors pour faire très 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 résumé, on peut voir ça comme un service civique. Dans une entreprise française à l'international. Alors c'est vraiment très 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 résumé. Maintenant en réalité, un VIE c'est un contrat spécifique avec l'État français qui a pour but de faciliter le déplacement, la mobilité de jeunes personnes dans des pays donc étrangers et dans des entreprises françaises pour les aider à se développer sur ces marchés-là.
C'est à l'étranger, c'est vraiment, mais dans des entreprises françaises.
Exactement. C'est limité à des entreprises françaises et le but est vraiment d'aider ces entreprises à se développer dans les pays où elles sont. Donc, il y a beaucoup de petites entreprises qui bénéficient de ce service, mais il y a aussi de grands groupes, parce que ça demande après aussi des démarches administratives un peu particulières. Mais le VIE, justement, en tout cas du point de vue de mon point de vue et de ceux qui en bénéficient, ça aide aussi dans ces démarches administratives, donc c'est une plus-value là-dessus, parce qu'il y a des accords entre les États, justement, qui sont négociés pour tout ça, donc c'est intéressant, et ça facilite un peu la démarche d'obtention, par exemple, d'un visa. Donc, c'est intéressant.
Dans cet épisode, on parle largement de VIE, le volontariat international en entreprise. Mais il faut également savoir qu'il existe le VIA, volontariat international en administration. En fait, c'est exactement la même chose, mais dans des administrations au lieu d'entreprises. Et si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, vous pouvez consulter les offres de VIA et de VIE sur le site de businessfrance.fr. Le lien est disponible dans la description de cet épisode. Et toi, concrètement, comment tu l'as trouvé? Comment ça s'est passé le début, la recherche de ton VIE?
Alors, comment je l'ai trouvé? C'est assez rigolo, mais en même temps, rien de très 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 incroyable, mais. Comme je le disais, en fait, je suis parti en VIE dans la même entreprise, dans laquelle j'étais avant de venir. D'ailleurs, même la même entreprise où j'ai fait mon stage de fin d'études. Donc, concrètement, j'ai fait stage de fin d'études. Ensuite, je suis passé en CDI et enfin en VIE. Donc, tout ça assez vite, hein, parce que ça fait 2 ans que je suis dans cette entreprise, au final, en comptant tout ça. J'ai entendu parler comment, tout simplement, en discutant avec mon maître de stage. Donc, j'en ai déjà entendu à l'époque quand j'étais en stage, où il m'a dit que, apparemment, l'entreprise, donc CNS, envisageait ou recherchait envoyer quelqu'un en VIE en Malaisie, parce que ça avait déjà été fait par le passé, parce qu'il y avait une antenne. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui m'avait déjà, moi, attiré, justement, chez CNS pour mon stage de fin d'études, parce que dès très tôt, en fait, je savais que je voulais partir, vivre à l'étranger. J'avais, on va dire, en venant en stage de fin d'études, j'avais un peu cette idée où justement je savais qu'il y avait eu déjà des personnes qui avaient fait une mobilité interne au sein de l'entreprise et que potentiellement il y aurait cette possibilité qui pouvait émerger. Mais c'est vraiment que quand du coup j'ai entendu parler via mon maître de stage Mehdi qui m'en a parlé parce qu'il justement on avait discuté, on était très très ouvert là-dessus. C'est comme ça que j'en ai entendu parler et puis après j'ai envoyé un petit message à la personne s'en occupant pour dire « Ah bah tiens, je suis intéressé. » Et j'ai fait le process interne pour, pour en profiter, et voilà où j'en suis maintenant, donc je pense que ça a plutôt bien marché.
Ok, super. Et tu es parti pour combien de temps?
Alors déjà oui, c'est vrai que c'est une spécificité importante que j'ai pas précisé, mais le VIE en fait c'est un contrat à durée déterminée qui est alors la durée minimum je suis pas sûr exactement, mais je dirais que ça doit être 2 mois, peut-être quelque chose comme ça, peut-être 1 mois même. Et par contre la durée maximum c'est 2 ans. 2 ans renouvelable une fois dans la foulée maximum, donc je crois que c'est ça si je dis pas de bêtises. Et donc dans mon cas, oui, moi je suis parti sur un contrat d'un an. Et l'idée, c'est, on verra, mais peut-être si tout se passe bien, de renouveler 6 mois supplémentaires. Okay. Donc voilà, on va voir.
Et en fait, parce que tu étais déjà dans l'entreprise, pourquoi t'as pas fait une mobilité en tant qu'expatrié? Enfin, je sais pas, un truc classique de personne qui part travailler à l'étranger dans la même entreprise. Pourquoi t'as fait un VIE? Enfin, c'était plus avantageux pour toi, pour l'entreprise?
Alors, je pense que c'est plus avantageux. Alors, c'est plus avantageux, plus simple, je dirais, pour les deux déjà. Maintenant, aussi, c'est que en tant que VIE, on a un statut particulier. Justement, on n'est pas un expatrié, ce qui veut dire que le contrat, les indemnités, enfin le salaire, la charge, la masse salariale n'est pas la même. Donc, du point de vue entreprise, il y a certainement pas mal d'avantages de ce côté-là. Et aussi, au niveau des visas, c'est plus simple de mémoire, justement grâce au contrat, enfin aux accords qui existent entre les pays dans ce cadre des VIE. Donc, parce qu'en fait, il y a un nombre de VIE limité, d'échanges limités entre les pays, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait penser un peu aux accords entre Erasmus, par exemple, entre universités. Et donc je pense aussi que c'est pour ça que c'est plus simple pour l'entreprise de faire bénéficier ça. Enfin, de faire bénéficier de ça.
Et aussi, tu parlais des avantages des expatriés, tout ça. Donc, ce n'est pas le cas pour les VIE. Et comment ils sont définis, les salaires pour les VIE?
Alors, les VIE, en fait, le salaire d'un VIE est défini... alors, comme je disais, en fait, j'ai un contrat... Alors, c'est régi par l'État français. C'est-à-dire que c'est l'État qui me paye. Et en fait, c'est des grilles de salaire, donc c'est bien défini. C'est une indemnité divisée en deux parties. Une partie fixe qui est touchée par tous ceux qui sont en VIE, qui ont le statut de VIE, et une partie variable qui en fait varie en fonction du pays de destination. Donc cette partie variable, comme c'est dit, elle varie en fonction de plusieurs facteurs. Le niveau de vie du pays et de l'endroit où on vit, et aussi différents facteurs supplémentaires tels que le risque lié à la vie à cet endroit. Donc ça peut être des risques terroristes, des risques sanitaires, etc. Donc c'est tout ça est pris en compte. Et donc l'indemnité totale touchée est la somme de ces deux parties. Le statut exact du VIE, faudrait que je reprenne les contrats, je suis pas sûr exactement, mais on est encore au régime français par exemple d'un point de vue social. Donc ouais, c'est vraiment un statut particulier.
OK. Intéressant. Et d'ailleurs, je crois que pour les grilles de salaire, c'est disponible sur le site des VIE, non? Si on tape VIE.
Tout à fait. Ouais, en effet, on peut retrouver toutes les informations liées aux indemnités ou même, enfin, tous les détails VIE sur le portail particulier. Pour ceux que ça intéresse, évidemment, j'invite à faire un tour parce que ça permet de. Il y a beaucoup d'informations justement qui permettent de se projeter. Pour ceux qui hésiteraient, qui aimeraient avoir plus d'informations, aussi peut-être simplement un premier aperçu des offres qui sont proposées, dans quel pays, etc., à quelle durée. Donc c'est très intéressant. C'est une mine d'informations, donc bien sûr, n'hésitez pas à les voir.
Super. Et j'avais une autre question, c'est... Donc, on a bien dit que les VIE, c'était pas comme une expatriation. Et c'est pas comme un échange académique non plus, mais je me demandais s'il y avait des ressemblances avec ça, comme, je sais pas, si t'es mis en contact avec d'autres VIE dans la ville où t'es, ou avec d'autres... ou des équivalents chez les étrangers. Est-ce qu'il y a ce petit aspect quand même échange académique, finalement?
Tu fais très bien de le dire, parce qu'en effet, c'est exactement le cas. parce que donc il y a plusieurs je m'avance peut-être un peu, mais je pense que dans quasiment tous les pays, il y a plusieurs VIE qui sont en simultané dans le pays. Parce qu'il y en a qui viennent, il y en a qui repartent, etc. Donc ça fait un peu un balai. Mais en fait, je pense pas que c'est dans tous les pays, mais dans pas mal de pays, il y a une antenne de l'agence en fait qui gère ça pour l'organisme qui gère ça, qui est Business France. Donc c'est auprès d'eux en fait qu'on signe tous les papiers, enfin qu'il y a toutes les démarches administratives, etc. Ils nous aident dans tout ça. Et donc il y a une antenne souvent de Business France dans pas mal de pays. Je sais qu'il y en a une à Kuala Lumpur, ce qui fait que ça fait des contacts, on peut pas dire permanents, mais qui sont faciles déjà et qui connaissent bien le pays et qui permettent de faire le relais en fait, de mettre en relation tous les VIE. Donc ça fait, comme tu disais, que par exemple quand je suis arrivé, j'ai tout de suite été introduit à un groupe de discussion où il y avait tous les VIE. Ça permet déjà de prendre contact avec eux et d'arriver sans être seul et de pas être perdu. Donc c'est vrai que ça aussi c'est un gros avantage que je vois dans le VIE, c'est que c'est un réseau qu'on peut tout à fait utiliser et on sait qu'on même avant de partir, on sait qu'en fait on sera pas tout seul. Déjà il y aura forcément l'entreprise dans laquelle on est accueilli, on part. Bon, c'est des Français, donc c'est toujours rassurant d'avoir des contacts français pour pas être totalement perdu. En plus, souvent, c'est des personnes qui connaissent forcément mieux que nous, donc ça permet toujours d'avoir des conseils, etc. Et au-delà de ça, donc il y a le réseau, en effet, VIE, qui est souvent riche et dynamique, parce que forcément, c'est des jeunes. En général, on peine pas trop pour se faire des premières rencontres, des premiers amis et s'installer. Donc c'est vrai que c'est un gros bénéfice, un gros plus par rapport à quelqu'un qui justement voudrait partir de manière indépendante sans trop de contacts dans un pays. Et ça c'est quand même un gros avantage. Donc il y a un peu cet esprit Erasmus, comme tu dis, qui est très sympathique.
Super, ouais. Et toi d'ailleurs, ça fait combien de temps que t'es arrivé et comment ça se passe? Je sais pas si t'as une petite anecdote pour illustrer la différence entre la Malaisie et la France, par exemple.
Moi déjà, ça fait 5 mois et demi que je suis arrivé, bientôt 6 mois, ça passe très vite. J'ai l'impression d'être arrivé hier. Surtout que, c'est pas vraiment une anecdote, mais bon, c'est pour aider pour illustrer le fait qu'on voit pas le temps passer, c'est que vu qu'en fait en Malaisie le temps ne varie pas au cours de l'année, donc il n'y a pas vraiment de saison, c'est d'autant plus difficile de savoir à quelle période de l'année on est juste avec le temps. Donc c'est-à-dire que on est en décembre, je t'avoue que l'esprit de Noël pour moi il est très loin, pourtant il y a des sapins par-ci par-là, donc c'est un peu particulier. Une simple, c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, c'est peut-être en tant que Français, ça fait un peu bizarre la première fois au début. C'est que en fait ici, dans la majorité des alors je parle pas forcément des restaurants pas typiquement français ou européens, mais il y a beaucoup de food courts qui existent ici, c'est plutôt commun, avec du coup des plats et des nourritures de toute l'Asie, donc ça c'est vraiment super. Mais une petite surprise qui est pas forcément, enfin on n'y pense pas forcément quand on arrive, c'est que c'est assez compliqué de trouver un couteau par exemple quand on souhaite manger. C'est-à-dire que ça peut surprendre quand on doit manger différents plats avec simplement une fourchette et une cuillère. Je sais qu'il y a ma famille mes parents qui étaient venus me rendre visite. C'est rigolo quand mon père demande à avoir un couteau à un serveur et il dit ah mais non, c'est pas possible. Donc c'est rigolo de voir la surprise, l'étonnement, la frustration, je ne sais pas ce que tu veux sur le visage de mon père. C'était rigolo, mais voilà, c'est une petite anecdote comme ça, première qui me passe, mais après il y en a tellement et c'est ça aussi qui est intéressant, les différences culturelles à voir, c'est ce que je voulais voir aussi. Donc,
c'est sûr. Et d'ailleurs au niveau du travail, t'es dans une entreprise française, mais est-ce qu'il y a quand même des employés, enfin du staff malais. Et est-ce qu'il y a t'as noté une différence avec, vu que t'as été dans la même entreprise, en plus dans les bureaux en France et en Malaisie, est-ce que t'as pu noter une différence là-dessus?
Tout à fait. Alors ça, c'est... Alors, deux points. Alors déjà, oui, en fait, alors, on a une toute petite équipe ici en Malaisie. Il y a donc moi, le responsable développement business de l'antenne, qui est français également, mais qui a vécu déjà en Malaisie pendant plus d'une dizaine d'années, qui est bien installé. Donc il connaît aussi pas mal, il a pas mal de conseils, d'informations, et c'est appréciable. Mais sinon, on a aussi deux collaborateurs, deux collègues malais. Donc c'est aussi très intéressant d'apprendre à travailler avec eux, parce que que ce soit dans la culture, c'est différent, parce qu'en plus il y en a un des deux qui est malais, on va dire, vraiment d'origine malaisienne, du peuple malais, et en fait un autre qui est malais d'origine chinoise. C'est vrai que la Malaisie est très intéressante, parce qu'il y a beaucoup de cultures qui cohabitent, donc c'est super. Donc il y a les Malais malaisiens, il y a les Malais chinois, il y a les Malais indiens, etc. Donc c'est vraiment une culture très très intéressante à découvrir. Et en fait, alors forcément il y a la culture chinoise, la culture indienne, la culture etc. Mais en fait la culture malaisienne mélange un peu tout ça, et c'est vrai que c'est un peu tout ce qu'on peut voir en Asie, mais à la sauce malaisienne. Donc c'est assez rigolo. Et c'est ça, de la manière culturelle, mais aussi dans les échanges. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant justement à découvrir. Et d'autant plus, comme tu le disais, parce que du coup, j'étais donc en France. Et c'est très, très intéressant de voir, en fait, de passer un peu de l'autre côté de la barrière, et de réaliser ce que ça représente de travailler dans une entreprise française en étant à l'autre bout du monde. Parce que, comme je disais, voilà, on est quatre actuellement en Malaisie, et donc on représente 2% peut-être de l'entreprise. Et la majorité, en fait, de la communication et jusqu'à présent du développement est plutôt orientée sur la France. Ce qui fait que la culture d'entreprise est très française, et là où quand j'étais en France, c'était quelque chose qui me paraissait normal. Je veux dire, il y a des codes ou des façons d'être, de penser, de communiquer, qui sont peut-être très ouvertes, très naturelles, parce que quand tu es au bureau, forcément c'est plus facile d'échanger. Ou quand tu as le décalage horaire qui rentre en compte, les différences de culture, de politesse, tout ça en fait mis bout à bout, ça fait que ça peut devenir problématique, ou en tout cas un vrai challenge pour collaborer, en fait, même au sein d'une même entreprise, sur un sujet qui pourtant, si on était tous dans un même bureau, ça serait beaucoup plus simple et beaucoup plus naturel.
Je voulais savoir, c'était quoi, toi, tes motivations pour partir à l'étranger, et pour partir à l'étranger loin comme ça?
Mes motivations, je pense être quelqu'un de curieux. J'adore découvrir de nouvelles choses, sortir de ma zone de confort, que ce soit personnellement, professionnellement. Après, c'est vrai que c'était d'abord motivé par d'un point de vue personnel, parce que j'avais envie de découvrir une autre culture. Alors ça, c'est venu à travers différents éléments. C'est vrai que j'ai eu de la chance de voyager en étant jeune avec mes parents dans différents pays. Donc c'est déjà un premier élément. Mais c'est vrai que je pense le moment où je me suis dit je veux vraiment faire ça, c'est la suite, en fait, de mon Erasmus dans le cadre de l'INSA, que j'ai effectué au Danemark. Donc c'est pas très loin c'est pas très loin de la France. Mais malgré tout, partir et être autonome comme ça dans un pays étranger et apprendre la culture, la culture danoise n'est pas non plus si différente de la culture française, mais il y a quand même des nuances, et c'est ça, en fait, qui m'a fait dire tiens, maintenant je suis de plus en plus curieux à découvrir qu'est-ce que c'est vraiment, comment est-ce que je ressentirais, comment est-ce que je vivrais une vraie cassure culturelle. Et à partir de là, je me suis dit où est-ce que je veux partir, quoi, pour pouvoir vivre ça. Et L'Amérique du Nord, ça, je pense, la culture reste quand même très occidentale, donc ça, je pense, c'était pas la bonne décision pour atteindre ce que je voulais. L'Amérique du Sud, c'était une bonne idée aussi. Après, ça m'attirait un peu moins, je dois l'avouer. Ensuite, bon, bah, l'Europe, pareil, voilà, ça reste très occidental. L'Afrique, c'était éventuellement une possibilité. Mais parmi tout ça, c'est l'Asie qui m'attirait le plus, puisque je pense que j'avais plus d'attirance déjà pour la culture asiatique. Et aussi, je pense que c'est aussi un des pays où c'est peut-être des régions où c'est assez facile de trouver du travail dans le réseau et dans le domaine du numérique, par rapport à l'Afrique, par exemple, où je pense que c'est plus limité. Et puis après, on verra. Peut-être qu'un jour, je vais aller vivre en Afrique. Donc, mais pour l'instant, voilà, c'était l'Asie. Par contre, pourquoi la Malaisie? Juste parce que il y a eu une proposition avec CNS. Sinon, j'avoue que je n'avais pas de destination privilégiée.
Ouais, tu te laisses guider par. Enfin, tu suis le flow, quoi. C'est super. Si on a une traditionnelle question autour de l'écologie, de l'impact sociétal, tout ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'importe ou avant tout, vas-y, t'es jeune, tu veux voyager et découvrir des nouvelles cultures?
Alors, bien sûr que c'est un sujet très très important et même enfin essentiel, je pense, pour notre génération. C'est pour moi le sujet le plus important sur lequel on devrait poser tous les axes décisionnels, gouvernementaux, etc. Mais bon, c'est voilà, je ne suis que moi, donc avec mon vote j'essaie d'influencer sur ça. Néanmoins, lié à ma décision, alors oui, bien sûr, ça rentre en compte. C'est vrai que un vol entre Paris Singapour, bien sûr, ça émet énormément de CO2. Je pense que j'ai eu de la chance, ou parce que j'ai pas eu trop de motivation ou trop de raisons d'utiliser de voyager en avion. Et je sais qu'en France, notamment avec l'entreprise, on essaie au maximum de quand c'est pas possible autrement, forcément on utilise l'avion, mais sinon on utilise essentiellement les trains pour des raisons écologiques. Je trouve ça très bien, environnemental. Dans mon cas, j'essaie de faire ce que je peux à mon échelle. Donc après, si c'est éviter l'avion, j'essaie au maximum pour mes déplacements ici aussi. Ça peut être pour se rendre, par exemple, au bout de la Malaisie, où moi je vais voir si c'est possible en train, si c'est possible en bus. Après, dans les contraintes temporelles qui sont imposées. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup voyagé autour, même si je vais essayer de voir un peu. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'embête un peu aussi quand même de me dire ça, parce que je pense que malgré tout, avec mon déplacement et peut-être mes déplacements autour, je vais émettre beaucoup de CO2 par rapport à un Français moyen. Après, c'est inhérent à notre... Alors bon, là c'est d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, il y a aussi certainement peut-être des missions qui vont m'amener à me déplacer. Ça c'est inhérent au travail et je pense que c'est vrai que c'est des choses où on faudrait tendre à, et d'ailleurs c'est vrai que pour ça c'est pas mal, mais on parlait tout à l'heure qu'il y a plus de télétravail ou d'accès de travail à distance qu'avant le Covid. Je pense que ça c'est bien et certes le numérique a un impact écologique et environnemental, et je pense que ça permet quand même de réduire au final tout mis bout à bout par rapport à des déplacements physiques comme ça pouvait être le cas avant. Donc c'est quelque chose qui rentre en compte en effet dans mes considérations. J'essaie de limiter au minimum. Et puis après, voilà, voir comment faire au mieux tout en prenant du plaisir et voyager, voilà, découvrir la culture, voyager, mais sans trop laisser d'empreintes si possible.
D'accord. Eh ben, merci Vincent pour ton point de vue là-dessus et puis toutes tes explications. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant la fin de cette interview?
Merci à toi déjà pour ce point de, enfin pour cette discussion. J'espère que j'ai été complet, ou en tout cas que j'ai pu répondre à tes questions ou aux questions que les gens qui écoutent se posent. Après, point de vue plus général, peut-être pour conclure, je peux que conseiller à des gens de se tourner vers autrui, vers la nouvelle culture, etc. Tout ça, ça permet vraiment de s'ouvrir, d'ouvrir son monde, que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue culturel. Personnel, culturel et professionnel, parce que c'est aussi, c'est vrai que c'est très intéressant de travailler déjà avec des personnes à l'autre bout du monde, comme ça peut être le cas peut-être pour au sein de certaines entreprises ou avec des clients, de prendre en compte tous ces facteurs justement de je vais pas dire pénibilité, mais des contraintes temporelles ou culturelles, ça peut faire la différence dans des relations professionnelle mais aussi humaine et aussi ben tout simplement je pense être je suis convaincu que ça permet de devenir peut-être une meilleure personne dans le sens où être plus ouvert, avoir plus d'expérience, de recul sur les choses, donc je pourrais recommander aux personnes de faire ça, et si les personnes sont intéressées pour faire des VIE ou simplement des Erasmus à l'échelle étudiante, c'est pareil, je pense que c'est une opportunité à saisir à tout prix. Et voilà, donc sautez dessus si vous avez l'occasion, je pense qu'il y a beaucoup de choses à gagner. Et voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose.
Eh ben écoute, Vincent, merci pour ce beau message, totalement d'accord avec toi. Et puis à bientôt, j'espère.
Bah écoute, merci Léo, à bientôt, au plaisir.
Et voilà, cet épisode est terminé. Merci encore à toi, Vincent, pour nous avoir partagé ton expérience. D'ailleurs, Vincent m'a chargé de vous dire, à vous, cher auditoire, que si vous êtes intéressé pour faire un VIE ou si vous avez des questions, vous pouvez le contacter sur LinkedIn ou via l'annuaire de l'Alumni INSA Lyon. Son nom complet, c'est Vincent de Vulder, comme écrit sur la vignette de l'épisode ou en description. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes en cherchant Ingénieur Avenir ou INSA dans votre application de podcast préférée. Ingénieur Avenir est disponible sur Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify et toutes les autres applications de podcast. Ce podcast a été enregistré et réalisé par Léo Pernemunier avec l'aide d'Amélie Berthe. Ce podcast est le fruit de la collaboration de la pépinière Alumni INSA Lyon, entité junior d'Alumni INSA Lyon, avec la chaire Ingénieur INSA, philosophe en action. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode du podcast Ingénieur à venir.